Les grandes heures de la France par Octave Aubry. Chapitre 9e. L'Europe française. La jeunesse de Louis XV. En laissant le trône à son arrière-petit-fils, âgé de 6 ans, Louis XIV a bridé par un testament secret son neveu, le duc d'Orléans, qui doit exercer la régence. Philippe d'Orléans ne se contente pas d'un pouvoir si réduit. Il s'adresse au Parlement de Paris, qui, tout aise de reprendre de l'importance, lui attribue le pouvoir sans condition. Le régent a 40 ans. Prince aimable, brave, fort intelligent, d'une culture étendue, mais léger, inconstant, voluptueux, il donne plus de temps au souper qu'aux affaires. La coterie qui l'entoure, composée de grands seigneurs mécontents, de parlementaires, de jansénistes, de gallicans, le pousse tout de suite à une réaction contre le régime imposé si longtemps par Louis XIV. C'est un essai de retour à une monarchie tempérée par la collaboration de l'aristocratie. Les ministres sont remplacés par des conseils. Le droit de remontrance est restitué au Parlement. La rigueur religieuse disparaît. Dans l'extrême détresse financière où Louis XIV a laissé le royaume, il faut que le régent recourt aux expédients pour assurer le fonctionnement de l'État. Ce sera le système de l'eau ou de l'as qui finit par la banqueroute. Ce désastre entraîne un complet retour du régent au régime autoritaire du dernier règne. On revient aux ministres. Le Parlement qui abusait de ses droits est exilé et il rentre à Paris qu'humilié et soumis. Les jansénistes sont frappés. Avant la fin de la régence, l'absolutisme est entièrement rétabli. Le régent mort, Louis XV, majeur et marié à une princesse polonaise, Marie Leczinska, confie le pouvoir à son ancien précepteur, le cardinal de Fleury. Ce vieillard, dit des petites, a le goût de la paix. Pourtant, en 1733, il se voit obligé de soutenir les prétentions du père de la reine, Stanislas Leczinski, au trône de Pologne. Guerre facile que termine la paix de Vienne. Le roi Stanislas reçoit la Lorraine, qui, après sa mort, reviendra à la France. Acquisition précieuse, elle achève notre frontière de l'Est. La succession de l'empereur Charles VI amène une nouvelle crise internationale. La France, alliée à la Prusse, s'y engage à l'étourdie. Nous essuyons quelques échecs en Italie, mais aux Pays-Bas, Maurice de Saxe nous vaut la victoire de Fontenoy sur les Anglais. Bruxelles et Anvers capitulent. La Belgique est conquise, la Hollande entamée. Nonagénaire, Fleury a disparu. Louis XV, toujours en peine d'argent, la question d'argent est le cancer de la monarchie française, souhaite la paix. On traite à Aix-la-Chapelle. Le roi de France perd là l'occasion de compléter le précaré rêvé par Henri IV et Richelieu. Il ne réclame rien pour tant de sang versé, d'or répandu. C'est ce qu'il appelle traiter en roi, non en marchand. Peut-être croit-il par sa modération poser en arbitre de l'Europe. En vérité, il traite en dupe. Pour ses 8 années de guerre, il ne reçoit aucune compensation. Il fait par contre donner des duchés italiens au fils de son cousin Philippe V. Le roi de Prusse conserve la Silésie conquise au début de la campagne. Marie-Thérèse se voit confirmée dans la possession de son héritage et son mari François de Lorraine est reconnu empereur. Les contemporains sentent bien la dérision d'un tel traité. « Bête comme la paix », disent les Parisiens. Ce n'est d'ailleurs qu'une trêve. L'ambition du roi de Prusse, Frédéric II, l'avidité de l'Angleterre, vont bientôt déclencher la désastreuse guerre de 7 ans. Mœurs et idées nouvelles. La France est liée d'un nœud trop fort par Louis XIV. Avec la régence, elle se relâche à l'excès. Dans les mœurs, la licence remplace l'austérité des dernières années du roi Soleil. Le plaisir devient maître. L'incrédulité est à la mode. Galanterie osée, souper, bal, vie de salon et de café. Débraillement général, à peine tempéré par les manières fines, l'élégance de surface d'une société qui marche déjà, semble-t-il, vers sa dissolution. Même bouleversement dans les idées. L'intellectualité française échappe à l'ascendant royal et s'élance vers la liberté. Montesquieu fait la critique aiguë et dédaigneuse de l'absolutisme. L'opinion éclairée se sépare d'ores et déjà de la monarchie de droit divin. Voltaire touche à tout, imprudent et merveilleux, dans des écrits d'une diversité singulière, où son scepticisme sape et corrode tout ce que jusqu'alors ont respecté les hommes, poursuit contre l'Église une guerre acerbe, sous couleur de tolérance. Mieux encore que ces écrivains, un genevois, d'esprit simpliste et malheureux, aigri dès sa jeunesse, mais doué d'un charme étrange, d'une imprévue magie des mots, Jean-Jacques Rousseau, exerce sur ce temps une influence qui tient du sortilège. Les autres parlaient à la raison, lui parle au cœur. Un torrent fougueux de conceptions nouvelles jaillit de ses livres, s'épanche sur le monde, mais d'abord sur la France. Louis XV, au demeurant, n'est pas sans qualité. Il est brave, à l'esprit ouvert, mais blasé de bonheur par l'excès du plaisir, c'est un homme timide et las, morose, qui bâille sa vie, se dégoûte aisément des affaires. Par moments, surtout vers la fin, il essaiera de redresser la barque royale entraînée vers des tourbillons inconnus. Un bon ministre, Machaut, lui fait envisager une réforme financière par la création de l'impôt du XXe, qui doit être payé par tous sans exception et servira à l'amortissement de la dette. L'opposition des privilégiés mutile le projet. À l'occasion des difficultés religieuses, nouvelle persécution des jansénistes, le Parlement se campe en défenseur des libertés publiques, en adversaire de l'arbitraire royal. L'opinion l'applaudit. Il se fait le centre d'une opposition de plus en plus marquée. Et pourtant, c'est dans une époque si trouble, si grosse d'inquiétant levain, que la primauté de l'esprit français s'impose au monde. Comme l'a dit Guizot, au XVIIe siècle, c'était la royauté française qui agissait sur l'Europe, au XVIIIe siècle, c'est la société française. Tous les pays, même adversaires, sont dominés par notre esprit, notre littérature, nos mœurs, nos arts. Partout on parle, on écrit, on vit français. L'élégance raffinée de la France, sa politesse, son luxe, sa grâce, rayonnent sur l'univers civilisé. Les demeures ont abandonné le style solennel de Versailles. L'architecture se livre à la fantaisie, à la recherche des surprises délicates. Les peintres, de très grands peintres, Batteau, Boucher, Pater, Lancret, Fragonard, brossent des fêtes galantes, des paysages de rêve et de mélancolie. La tour dessine des pastels d'où la convention disparaît. Chardin, simple, franc et grave, se fait l'imagier du peuple et de la bourgeoisie. On raffole de la musique, soit qu'on tienne pour le classique Rameau, soit un peu plus tard, et ce seront alors des coteries véhémentes pour l'allemand Gluck ou l'italien Piccini. La science, elle aussi, dans cet âge de l'intelligence, brille d'un nouveau lustre. Monge crée la géométrie analytique et descriptive, Laplace renouvelle la mécanique, D'Alembert la dynamique, Lavoisier transforme la chimie. L'histoire naturelle, si fort à la mode, fait des pas merveilleux avec Réaumur et surtout avec Buffon, plus écrivain encore que savant et qui atteint à la plus haute philosophie. L'Europe et la France. Si l'Europe est française, dans ses usages, ses goûts, ses jeux, ses modes, elle n'oublie point pour cela ses intérêts. Les nations continuent d'aller vers leur destinée propre, et ses intérêts, ses destinées, le plus souvent se heurtent aux intérêts, la destinée de la France. Des avidités jeunes, des jalousies un peu partout, la brident et la menacent. Sa monarchie fatiguée, ses gouvernements incertains ne l'ignorent pas. Mais ils ne font rien, ou trop peu, pour regrouper ses forces et protéger son avenir. La France a bien pu conquérir l'hégémonie dans l'ordre intellectuel. Elle l'a perdue dans l'ordre pratique, bien qu'elle demeure l'État le plus compact et le plus évolué du continent. La guerre de 7 ans, menée aux côtés de l'Autriche contre l'Angleterre et la Prusse, conduit à de vrais désastres. Le traité de Paris qui la termine est l'un des plus néfastes que la monarchie ait signé. Il consacre le triomphe britannique. Nous cédons à l'Angleterre le Canada entier, avec la vallée de l'Ohio et les territoires de la rive gauche du Mississippi. À l'Espagne, pour la dédommager de la perte de la Floride, nous abandonnons la Louisiane. Ce traité scandaleux que Choiseul est obligé de signer nous chasse pour plus d'un siècle des grands chemins du monde. L'opinion française, sensible surtout à la tranquillité retrouvée, accueille avec détachement la perte de nos possessions d'outre-mer. Voltaire est son interprète fidèle, quand il écrit, croit-il plaisamment, « J'aime beaucoup mieux la paix que le Canada. Je crois que la France peut vivre heureuse sans Québec. » Ses amis, les philosophes, ne voient pas, les aveugles, que c'est une grande part du patrimoine national qui disparaît. Choiseul, du moins, ne se résigne pas à l'abaissement de la France, et pendant 7 années d'un utile ministère, il redresse notre politique extérieure, et après un accord avec Gênes, annexe la Corse. Mais il n'assainit pas les finances, et se montre faible contre les parlements. Aussi, Louis XV, endoctriné par la Dubarry, sacrifie-t-il brusquement le ministre qui, en dépit de certaines erreurs, l'a servi avec fidélité et succès. Essai de réforme. Sous l'égide de la favorite, un nouveau ministère s'installe. Le duc d'Aiguillon aux affaires étrangères et à la guerre, Maupeou à la justice, l'abbé Terray au contrôle général. C'est ce qu'on appellera le triumvirat. Ces 3 hommes ne manquent à la vérité ni de mérite ni de zèle. Maupeou, petit homme bilieux et chafouin, est plein d'expérience et de fermeté. L'abbé Terray est fort compétent en finances. Ils sont résolus à gouverner avec énergie et à rendre au pouvoir monarchique, par des réformes de base, son ancien lustre. À peine installé, fort de la pleine adhésion du roi, il se livre un véritable coup d'État. La rébellion parlementaire, soutenue par un parti chaque jour plus nombreux, est devenue un grave danger pour le régime. Le 13 avril 1770, le Parlement de Paris est supprimé. 6 conseils supérieurs, Sigentablois, Chalon, Clermont, Arras, Lyon et Poitiers, rendront la justice. Les conseillers seront nommés, rétribués et révoqués par le roi. Plus de vénalité des offices, plus d'épices, ces dons scandaleux faits par les plaideurs à leurs juges pour se les rendre favorables. La procédure est simplifiée et accélérée. Une telle réforme n'est guère discutable. Par malheur, Louis XV n'ose pas l'étendre à toute la France. En outre, les magistrats, appelés dans les nouveaux conseils, les parlements Maupeou, choisis à la diable, manquent trop souvent de savoir et de probité. Cette révolution judiciaire, parfaitement légitime, est ainsi viciée dans l'exécution. Il est regrettable que Louis XV n'ait pas eu le temps de la faire entrer dans les mœurs. Elle eût peut-être évité 1789. À l'extérieur, la Pologne est dépecée. Les Turcs, abandonnés à eux-mêmes, accordent au tsar la protection des chrétiens et celle des lieux saints. Double échec de notre politique étrangère. La France, dans ces tristes années, semble absente de l'Europe. Elle se désintéresse du sort de ses plus anciens et fidèles amis. Placée en face d'un déficit effrayant, l'abbé Terray tente avec courage une refonte de l'organisation financière. Il réduit les pensions, diminue les rentes, consolide la dette flottante. Ces mesures lui valent des légions d'ennemis. Il s'en fait de plus nombreux encore en essayant d'éteindre l'impôt aux privilégiés. Bientôt, il est débordé par le train exorbitant de Versailles. Il revient, comme ses prédécesseurs, aux petits moyens, aux expédients. Un terrible discrédit, en partie injuste, enveloppe ainsi le ministère. Il englobe le prince. Paris, qui s'étant soucié de lui, le méprise au point qu'il n'ose plus s'y montrer. Le piédestal de sa statue se couvre d'inscriptions haineuses. Quand il meurt, le 10 mai 1774, de la petite vérole, il faut le transporter à Saint-Denis de nuit et sans cortège pour éviter une émeute. La monarchie paraît à tous gravement atteinte. Du règne qui va s'ouvrir va dépendre en effet sa renaissance ou sa fin. Un grand espoir, Louis XVI. Louis XVI, fils aîné du feu dauphin, qui lui succède, ne ressemble en rien à l'élégant et hautain aïeul. Un épais garçon de 20 ans, à trogne vermeille, grand chasseur, gros mangeur, qui dort bien, rit lourdement, et lime des serrures à son établi quand il est de loisir. Il tient de sa mère, la douce Marie-Joseph de Saxe. Il n'a pas l'esprit vif, mais juste, capable d'application et de suite. Il est assez instruit. Son gouverneur, l'Avauguyon, un sot, l'a rendu trop dévot. Plein d'intentions excellentes, il manque totalement d'énergie. Louis XV l'a toujours écarté des affaires. aussi le métier de roi va-t-il l'épouvanter. À l'annonce de son avènement, il s'écrie « Il semble que l'univers va tomber sur moi ». La reine Marie-Antoinette est archiduchesse d'Autriche et fille de l'impératrice Marie-Thérèse. Elle en tire beaucoup d'orgueil. Elle méprise un peu le roi, ce pauvre homme, comme elle ose écrire. Belle, ayant à la fois la majesté et la grâce, elle aime trop la parure, le plaisir. À Versailles, dans ses petits appartements, ou dans la féerie champêtre de son Trianon, elle s'entoure de familiers mal choisis qui vont influer sur elle et par elle influer sur le roi de piteuse façon. Pourtant, elle a le cœur droit, une sensibilité généreuse, une volonté et un courage qui croîtront avec le danger et passeront la pire infortune. Le nouveau règne a des débuts heureux. Des provinces les plus reculées, un flot touchant de confiance monte vers le jeune souverain. Il renvoie le triumvirat et fait entrer au ministère quelques esprits remarquables. Vergennes, véritable homme d'État, prend les affaires étrangères. Au contrôle des finances est appelé un ami des philosophes, Turgot, qui s'est montré en Limousin intendant intègre et habile. Enfin Malesherbes, connu pour ses lumières, reçoit la maison du roi et le comte de Saint-Germain, réorganisateur de l'armée danoise, le département de la guerre. Mais, faute capitale, de conséquences infinies, le Parlement de Paris est rétabli avec la plupart de ses prérogatives. On ne tarde guère à mesurer la gravité d'une telle erreur. Silencieux, renfrogné, homme de cabinet qui ne voit pas toujours le réel, s'embarque, comme bien des hommes de ce temps, en des bateaux de songe. Turgot a l'amour et même la rage du bien public. Tout de suite, il se met à la tâche et s'attaque au déficit qui, en 1774, est de 48 millions. Il impose des retranchements sévères à la maison du roi, supprime des offices. D'autres mesures heureuses sont prises, suppression de la corvée, élargissement des corporations. Turgot projette encore la création d'une véritable représentation nationale, mais tout cet intelligent labeur vient se briser contre l'opposition de la reine et des privilégiés. Louis XVI, faible comme il le sera toujours, lui fait demander sa démission. Le départ du réformateur est salué avec enthousiasme par la cour. Elle ose même faire chanter un Te Deum à Notre-Dame. Pour remplacer Turgot, le premier ministre Maurepas propose au roi de faire appel à Necker. C'est un banquier genevois, très riche, bien vu de la société libérale, et qui s'est acquis par son renom de philanthropie une véritable popularité. Sans idée originale, entouré de flatteurs qui cultivent sa vanité, Necker ne manque pas d'adresse. Il a le sens du crédit et montre un souci réel de l'intérêt public. Étranger et protestant, il entre au ministère avec seulement le titre de directeur général des finances. Il a recours à des emprunts répétés qui sont aisément couverts, car la confiance générale l'entoure. Il augmente ainsi la dette de 600 millions. En même temps, il décide des réformes. Reprenant le projet de Turgot, il obtient du roi, à titre d'essai, la création de plusieurs assemblées provinciales. Elle travaille avec zèle, propose un nouvel aménagement de la taille, formule des vœux raisonnables pour la refonte de l'administration. Mais la popularité de Necker fait ombrage aux privilégiés. Contre lui se massent les princes, l'aristocratie pensionnée, le haut clergé, le Parlement. Louis XVI, assailli de critiques et de plaintes, abandonne le Genevois. Son départ produit un effet retentissant. La nation presque entière y voit une calamité publique. C'est en effet la fin des sincères tentatives de réforme qui pouvaient encore asseoir la monarchie. Ce pays d'esprit très évolué qui a pris conscience, par un demi-siècle de discussions, de polémiques, de thèses sociales, de ses besoins et de ses droits, pense à présent qu'il ne peut plus attendre du souverain seul la refonte d'un système vieilli que trop d'abus paralyse. Il lui faut s'en mêler lui-même. La révolution peut encore tarder quelques années dans les faits. D'ores et déjà, elle semble à tous inévitable. La guerre de l'indépendance. Les colonies françaises de l'Amérique du Nord se sont rebellées contre la métropole. L'opinion française embrasse avec élan la cause des insurgents américains qui semblent avoir inscrit sur leur drapeau les principes mêmes de Rousseau. Elle applaudit à leur premier succès et de nombreux volontaires appartenant à la haute noblesse, Lafayette, Lauzun, Vaudreuil, Noailles, Ségur, viennent leur offrir leur épée. Vergennes, héritier des idées de Choiseul, presse Louis XVI d'intervenir en Amérique. C'est l'occasion de prendre notre revanche de la guerre de 7 ans. Le roi hésite, il répugne à soutenir contre leur souverain des sujets rebelles, puis se laisse entraîner. Il s'allie aux nouveaux États-Unis. Notre marine remporte avec Destin et Guichin de beaux succès aux Antilles. Suffren est vainqueur sur les côtes de l'Inde. Crillon enlève Minorque. La suprématie maritime de l'Angleterre disparaît. 8 000 soldats avec Rochambeau ont renforcé les troupes américaines. L'anglais Cornwallis s'est obligé de capituler à Yorktown en 1781. Et Lafayette, marquis démocrate, s'écrie « L'humanité a gagné son procès. La liberté ne sera plus jamais sans asile. » Un tel désastre oblige l'Angleterre à chercher un accommodement. Après de longues négociations, la paix est signée à Versailles. Le cabinet britannique reconnaît l'indépendance des États-Unis. Il rend à la France les Petites Antilles, à l'Espagne la Floride et Minorque. Paix glorieuse à laquelle il faut reprocher pourtant de ne pas nous avoir, et c'était possible, fait restituer le Canada. Nous sommes en 1783. Les temps difficiles. Necker, remercié, tout crédit a disparu. Calonne, ministre courtisan, enfle démesurément le déficit. À bout de ressources, il finit par proposer des réformes. « Mais c'est du Necker que vous me donnez là, » dit Louis XVI étonné. « Sire, » répond Calonne, « nous n'avons pas mieux. » Le programme est bon, mais Calonne peut-il réussir ou Necker a échoué? Comme il est trop sûr de l'opposition du Parlement, il invite Louis XVI à convoquer une assemblée de notables sur qui s'appuyer pour trouver de l'argent. Les notables se réunissent à Versailles en février 1787. Grands seigneurs, maréchaux, prélats, conseillers d'État, maires des principales villes, délégués des provinces, ils ne représentent pas la vraie France. Et pourtant, la fièvre de réforme est si générale que ces privilégiés empruntent son langage. Ils refusent d'examiner tout projet d'impôt tant qu'ils ne connaîtront pas l'origine et l'étendue du déficit. Ils exigent des pièces comptables. Calonne les refuse. Ils ne pourraient montrer que des faux. Attaqués par les gazetiers, perdus dans l'opinion, enfin abandonnés par la reine, ils disparaissent. Brienne, imposée par Marie-Antoinette, doit reprendre les projets de Calonne. Les notables les repoussent encore et réclament la convocation des États généraux. Brienne se retourne vers le Parlement. Celui-ci s'oppose à tout nouvel impôt et demande lui aussi les États généraux. L'anticlute du pouvoir royal et des magistrats recommence. Lits de justice, arrestations, exil des conseillers, rappels, nouvelles protestations. Brienne, non sans courage, fait tête aux rebelles, à l'agitation populaire. Il manque de numéraire, ne peut payer qu'en billets. Son ministère agonise. Avant de disparaître, cédant aux vœux publics, il annonce la convocation des États généraux pour le 1er mai 1789. Necker est rappelé au contrôle et obtient des avances chez les banquiers. Il se flatte que sa seule présence rendra au gouvernement son assiette, à l'opinion son calme. Il ne tardera pas à apprendre, comme la cour, que déjà la révolution a commencé.